13h21, quel plaisir de l'avoir en studio à distance, on peut dire ça comme ça, parce qu'il est dans son propre studio, notre chum Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche. C'est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche, on va l'appeler monsieur, qui est là. Donc pour une première fois cette année, c'est un plaisir, puis officiellement, bonne année mon ami.
Bonne année à vous deux, puis bonne année à l'ensemble des auditeurs, hein, tout le monde qui nous écoute à toutes les semaines, qui vous écoute à toutes les semaines, puis qui font de ce que vous faites, ça rend ce que vous faites possible, puis nous autres... On ne pourrait pas vivre sans vous autres.
Hein? Non, d'après moi.
On pourrait pas vivre.
D'après
sans
moi, avec Kate, t'es capable de faire un bon bout.
Ah oui. Ça. Écoute, mais il y a des besoins que Kate comble, il y a des besoins que toi tu combles.
OK. Hein? Okay.
C'est complètement différent.
Ah, oh, mais merci. Différent. Merci de me rassurer.
C'est deux sphères de divertissement complètement différentes.
Et on parlait de brasier, on parlait d'incendie. T'sais, au Québec, on a eu notre part d'incendie là, dans nos forêts. Y a-t-il quelque chose de positif? Je sais que ça fait bizarre comme question à poser,
oui.
Mais dans une forêt, quand un bout de forêt passe au feu, y a-t-il quelque chose de positif après quelques années qui se produit dans ces forêts-là qui ont été brûlées?
C'est excessivement paradoxal, tu le dis, puis c'est dur à comprendre pour la population qui voit des hectares de forêt se voir brûler, mais la régénération que permet ces grands brasiers-là est quand même assez importante. Pense juste à la nourriture pour les cervidés, par exemple. Tu sais, on va dire, les chasseurs de grands gibiers vont me comprendre, là, quand il y a des travaux forestiers dans des secteurs, des travaux qui sont pas trop caustiques, on va le dire comme ça, qui sont relativement réservés, où est-ce qu'on fait, par exemple, de la coupe en damier, bien, tous ces bûchers-là, où est-ce qu'on a fait des coupes à blanc, quand ça se remet à pousser, c'est de la nourriture qui est disponible très, très, très rapidement, puis qui est très, très, très nutritive, à la bonne hauteur pour les jeunes veaux, pour les jeunes animaux, et c'est très, très positif. Donc, il y a une régénération qui suit les grands brasiers qui est quand même excessivement importante.
OK. Puis ça, là, je veux dire, il y en a à chaque année. Puis comment ça... Exemple, il n'y a pas un maudit être humain là, là. Puis tout d'un coup, dans la forêt, le feu pogne. Ça pogne comment?
Principalement les éclairs.
C'est lors des... OK, c'est lors des orages.
Oui, absolument, absolument. Donc, les éclairs sont... Et le facteur humain aujourd'hui est très présent là, sur les secteurs où est-ce qu'il y a des humains, là, des articles de fumeurs, des camps, des VTT. Tu sais, quand on arrive à des indices d'inflammabilité qui sont excessivement élevés, là, on nous demande de plus nous promener en forêt, puis les gens ne comprennent pas d'un fois que juste le pot d'échappement du VTT qui va vraiment frôler le foin qui est sec peut initier un feu de forêt en un claquement de doigts. Sinon... Les facteurs climatiques, bien évidemment, tu as des endroits où ça vient excessivement chaud, puis whoop, d'une plaque, tu as un effet de loupe avec le soleil. Avec la goutte d'eau avec le soleil existe réellement. Hein, cet effet-là, on se l'est fait prouver. Il y a des feux. Oh oui, absolument, ça existe réellement. Mais l'éclair, c'est le principal initiateur de grands brasiers non humains, on va dire ça comme ça.
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Goutte d'eau avec le soleil, ça pourrait allumer un incendie. C'est la première fois que j'entends parler de ça.
Il y a un effet de loupe ou encore un effet miroir, un effet qui va faire refléter ou concentrer un rayon du soleil. Si tu es dans un secteur où est-ce que il n'y a pas eu de pluie depuis longtemps, il reste une petite mare d'eau, quoi que ce soit, c'est excessivement sec à l'entour, la concentration des rayons du soleil en périphérie d'un plan d'eau peut réchauffer l'herbe au point où est-ce que ça peut s'embraser. Ça avait été démontré, ça, au moment où est-ce que des ichtyologues étaient en recherche dans le bassin de l'Oricono en Amérique du Sud, là, où est-ce que quand la sécheresse arrive, que le lit des rivières, là, tout le bassin de l'Oricono, le Rio Negro, le Rio Grande, tout ça se vide là, à la fin de la saison, eh bien, ça devient excessivement sec et il y a des brasiers qui allument en périphérie des cours d'eau à cause de la réflexion et de la concentration. C'est un facteur qui est beaucoup plus minime que l'éclair. Je dirais que dans 90 % des cas, quand c'est non humain, c'est l'éclair. Mais ce facteur-là existe aussi. C'est un mythe qui avait été démystifié par des ichtyologues. Là.
OK. Puis les feux dormants qu'on appelle, là, qui sont directement dans le tronc d'arbre, là, ça, c'est-tu une légende ou ça existe vraiment?
Ça existe vraiment. Il y a les troncs d'arbres, puis il y a les feux souterrains aussi. Donc, il y a des brasiers qui vont se faire, des brasiers qui vont se créer au niveau, par exemple, de racines qui vont être étouffées, puis les cendres vont être, ou les tisons vont être conservés sous terre avec très, très peu d'oxygène, vont combustionner, ils rentrent en mode combustion pendant excessivement longtemps. Je ne me souviens pas combien de temps sous terre peut perdurer une braise, là, mais c'est hallucinant combien ça peut durer. Puis là, à un moment donné, bien, c'est pour un facteur de ruissellement ou un autre, il y a une calvette qui se crée, puis il y a un nouvel apport en oxygène, bien, pouf, tu as un nouveau foyer d'incendie qui se crée là. Ça, je te dirais que c'est des facteurs qui sont beaucoup moins fréquents que la fameuse éclair sur un arbre qui va initier un feu de forêt. Ça, c'est très, très, très fréquent. Quand on parle de causes non humaines, maintenant, les causes humaines, industrielles, travaux forestiers, etc., sont de plus en plus fréquentes de nos
Parlons maintenant du 51e état. Est-ce que
temps.
est-ce que ça va vous faciliter la vie, chasseurs, pêcheurs? Non,
Ben.
on agace un peu, là. Mais Justin Trudeau, la guerre entre Justin Trudeau et Donald Trump, ça peut-tu nous toucher, ça?
Au départ, le départ de Justin Trudeau, c'est quelque chose qui a fait évidemment lever beaucoup de ferveur du côté non seulement des chasseurs-pêcheurs, mais de la biodiversité, je te dirais. Parce que sous le règne Trudeau, dans la dernière décennie, on a tellement vu le facteur développement économique prendre les devants en termes de priorité versus le facteur conservation faunique par des décisions qui vont nous avoir apporté des grands dossiers, comme par exemple la fameuse taxe carbone vers la population au moment où est-ce que à grands moyens, on développe industriellement, on développe économiquement. Et on est allé jusqu'à donner des permis sur le plan pan-canadien pour des méga parcs industriels ou encore des méga projets de forage, des méga projets miniers sur des sites qui étaient hautement, hautement protégés parce qu'ils résident soit des espèces qui sont en voie de disparition, qui sont surveillées, ou encore les dernières ressources forestières de certains secteurs sous des promesses, par exemple, avec Développement économique Canada, sous des promesses de ristourne par la suite. On n'a qu'à penser à certaines mines au niveau, par exemple, lithium et au niveau énergie. Eh bien, c'est des grands secteurs qui étaient protégés pour des raisons, parce que notre biodiversité au Canada, elle mange une claque solide dans les dernières années, surtout dans cette dernière décennie. Là, à cause de ça, à cause qu'on a octroyé énormément de développement économique dans des milieux qui sont surprotégés et avec raison. Tu sais, il y a une étude qui vient de sortir là, présentement là, par une revue qui est anglophone, la revue Nature, là, mais je pense qu'il y a genre 60 voyons, scientifiques qui sont co-auteurs de cet article-là, qui dit que présentement, le quart de la faune d'eau douce est menacé de disparition. Littéralement. Et les facteurs, là, ils sont très, très, très évidents, là. On parle énormément des travaux forestiers, on parle énormément de l'industrialisation, on parle énormément de tout ce qui est laissé derrière lors de, par exemple, l'établissement de nouveaux territoires, quand on va bâtir, par exemple, des mines, quand on va faire des travaux forestiers. Donc, tout ce qui est résidu qui va se ramasser dans l'eau, soit l'écorce, soit encore le copeau ou le quoi que ce soit, c'est, tu sais, dans le 60% où est-ce qu'on dit que la pollution est responsable de la disparition potentielle du quart de la faune d'eau douce, bien là-dedans, il y en a 39% qui est directement relié aux facteurs industriels, donc les travaux forestiers et justement ces grands chantiers-là, dans des territoires où est-ce qu'on a donné le go à la fabrication d'usines, de mines, de plans de ravitaillement de minéraux, de quoi que ce soit, du côté économique, du côté surtout industriel, sur des territoires qui étaient excessivement prisés, par exemple, sur certains territoires qui étaient les dernières bandes de passage animalière entre deux grands secteurs où est-ce que les animaux peuvent proliférer puis peuvent aller se reproduire, et etc. Puis on va couper ces ponts-là. Donc, le Canada, dans la dernière décennie, a mangé la claque et nos ressources, tu sais, à un moment donné, là, tu as beau vouloir bâtir une économie, tu as beau vouloir aider les gens là, sur le plan sociétaire ou quoi que ce soit, tu as trois matières que tu dois sauvegarder sans lesquelles il n'y a rien qui existe. La terre, l'air, puis l'eau. Si tu ne sauvegardes pas ces trois-là, quand même bien que tu voudras faire n'importe quel développement économique, ça ne fonctionnera pas. Présentement, là, dans nos plans d'eau douce, ben on dit le quart des espèces dont on parle, autant les plantes que les animaux, sont considérés comme étant en danger. Dans nos océans, ben, puis ça, c'est très, très, très relié à Pêche et Océans Canada, on a des challenges qui sont excessivement importants, par exemple au niveau du phoque gris, des populations qui étaient dans le coin de 15 000 dans notre secteur, qui sont rendues dans le coin de 400, 500, voire 600 000 selon les derniers décomptages, qui sont en train de complètement scraper les stocks de poissons. Des populations de bars rayés qu'on n'a pas le temps d'observer, qu'on nous dit au niveau COSEPAC, on n'a pas le temps de décompter et c'est le gouvernement qui devrait décréter ou du moins retirer le statut en danger de ces espèces-là pour en permettre la récolte puis l'utilisation de manière soit industrielle, dans l'industrie du textile, de la nourriture, des huiles de chauffage pour les Premières Nations, etc., dans le cas du phoque gris, du côté de la pêche commerciale, de la pêche récréative, du côté du bar rayé, des espèces qui sont en train de scraper complètement un milieu aquatique, les milieux qui nous touchent, qui sont environnants ici. Puis c'est directement Le fédéral qui en était responsable, on n'a jamais réussi à avoir de réponse là-dessus. L'avenue d'un autre parti, et on va se référer à la gestion sous Harper dans le passé, là, où est-ce que ces dossiers-là étaient beaucoup plus faciles dans le sens où est-ce que lorsqu'il y avait une table ronde au niveau national qui s'assoyait pour prendre en considération des dangers aussi imminents que la disparition d'espèces, eh bien, c'est pas le facteur économique, le facteur de développement industriel était pris en compte, mais ça n'allait jamais, jamais. Jamais aller anéantir une espèce sur le terrain.
Sauf
Jamais,
que
jamais.
si on change de gouvernement au fédéral, à ce moment-ci, je comprends que ce serait le gouvernement conservateur encore, mais ce sont deux politiciens extrêmement différents avec des enjeux qui sont différents aussi, qui ont énormément changé à travers le temps. Ça te dit quoi, ça, Martin, pour la suite?
Ben, au départ, la façon dont aborde la taxe carbone, parce que là, on met tous nos efforts de ce côté-là, là, sur la taxe carbone, il y a une équation qui est plate, là, comme la taxe carbone qui existe d'un côté, mais la surindustrialisation de l'autre côté. Là. On a un écart qui est considérable dans la façon dont les deux gouvernements abordent la taxe carbone. Il y en a un qui veut l'abolir complètement, l'autre qui veut la conserver. Et on sait très bien que sur le côté conservateur, ben, tout ce qui s'appelle pêcherie océan, entre autres l'ancienne ministre pêcherie océan sous Harper, et la ligne de parti conservatrice est beaucoup plus justement conservatrice au niveau des espèces et au niveau des environnements. Alors, à un moment donné, tu veux réduire les gaz à effet de serre, puis tu veux réduire le carbone, on va dire comme ça, le CO2 même dans l'air, et puis tu es en train d'anéantir complètement le poumon du Canada qui sert à transformer ce carbone-là en oxygène. Eh bien, ça, les conservateurs étaient très protecteurs de ce côté-là, excessivement protecteurs, puis c'est dans la ligne de parti. Bien, ça, c'est une des choses qu'on observe. C'est sûr que pour nous autres, je dirais que le côté écologique est très, très, très important parce qu'on parle là d'un milieu dont la dynamique est excessivement sensible, puis on fait partie de ce milieu-là. Si on n'a plus la ressource, on ne peut plus évoluer. Si tu n'as plus terre, air, mer, tu peux plus développer aucune économie, tu peux plus mettre des bébés au monde, tu peux plus rien faire. D'autre côté, ben, tu as les gens qui récoltent ces ressources-là, qui sont des unités de gestion là-dedans, qui évidemment voient le retour en place de conservateurs, surtout dans le dossier C-21, puis tout le gun ban, l'abolition des armes à feu qui ne sont pas présentes dans la criminalité au Canada, qui ont été retirées de manière, on le sait, idéologique à l'os. Eh bien, évidemment, notre plus grand rêve, c'est qu'un conservateur rentre en place puis vienne soit abolir ou redresser ces réglementations-là pour qu'elles soient faites dans le sens où ce qu'elles devaient être faites au départ, c'est-à-dire protéger la population, donc adresser les couches de population qui sont problématiques par rapport à la criminalité dans les armes à feu. Et ça, c'est le gros dossier. Le dossier sécurité publique et le dossier proéminent dans un changement de gouvernement parce qu'on en est à au-delà de 200% d'augmentation dans les crimes contre la personne dans la dernière décennie depuis que Trudeau a été mis en place. Et l'abolition de grandes listes d'armes à feu dans les mains des utilisateurs légitimes n'est pas étranger à ça, puisqu'on a demandé au départ et on avait présenté ce projet-là comme étant on va aller fesser du côté criminel, les armes qui créent les crimes dans la rue, et on ne l'a pas fait. Donc, c'est sûr qu'une des premières choses que le conservateur présente là-dedans, ben, c'est de renverser à vapeur, de dire les propriétaires légitimes d'armes à feu, on sait très bien que la fuite d'eau ne vient pas de là. Elle vient du côté criminel, on a des services frontaliers, on a des corps policiers, on a des enquêteurs à renforcer et on va le faire, on va les lutter pour vrai. Ben, ça, je te dirais que c'est pour la partie Trudeau, il y a énormément de positif dans notre vue de la pérennité de nos espèces fauniques, dans la façon de gérer ou de placer en priorité les milieux fauniques face à l'industrialisation, la surindustrialisation. Ça, c'est le côté Trudeau. Maintenant, le côté Trump, ben lui, il est un petit peu plus euphorique, puis il est un petit peu plus questionnable parce que on ne connaît pas à 100%, puis j'ai hâte en tabarouette de parler avec un spécialiste là, de la politique internationale, puis de l'économie internationale pour mieux comprendre le dossier. Parce que d'entrée de jeu, ce que nos chasseurs, nos tireurs sportifs voient beaucoup dans le côté 51e État, qui au début était une petite farce, puis finalement, il a l'air d'être pas mal plus.
On était plusieurs à penser que c'était une blague qu'il faisait, puis qu'il voulait boulier Justin Trudeau, mais là, il a parlé d'autres endroits dans le monde qu'il aimerait avoir. Tu sais. Puis ça, moi, je te le cacherai pas, j'ai des chums qui triperaient à être aux États-Unis parce qu'ils se disent, garde au diable le passeport, puis la liberté est un peu plus évidente aux États-Unis qu'au Canada. Moi, honnêtement, j'ai vécu aux deux places, là, beaucoup plus souvent ici que là-bas, mais je suis pas si mal que ça au Canada, là. Tu sais, il y en a qui veulent se sauver, là, mais moi, je veux dire, au niveau de la criminalité, tu sais, c'est pas mal moins élevé que certains autres endroits aux États-Unis. Tu sais, la vie est quand même assez belle au Canada. C'est juste qu'on paye énormément de taxes et d'impôts. Mais est-ce que les Américains sont plus lousses pour ce qui est de la chasse et de la pêche? Pour ce qui est de la réglementation? Oui.
Définitivement. Le U.S. Wildlife Institute est une organisation qui est beaucoup plus axée sur la conservation que la partie égale au niveau libéral canadien, on va le dire comme ça. Là.
Mais toi, tu apprécies ça, parce que des fois, tu es critique par rapport à ça. Tu te dis, mettons, oui, mais il ne faut pas aller dans les changements extrêmes là, comme aux États-Unis. Ils ont ou encore peu d'encadrement. Est-ce que tu émets une nuance là-dedans?
Pas en tout. La gestion de la faune au Canada a besoin de mesures extrêmes puis de changements extrêmes. Autrement, on va l'échapper complètement. Il faut que les chasseurs, les villégiateurs et les pêcheurs comprennent que si on ne met pas des réglementations qui sont justes, qui découlent d'études réelles et de décomptages sur le terrain, donc entre autres d'inventaires forestiers, des pochettes hivernales des différents animaux pour statuer combien d'animaux on peut prélever, puis des vraies lois, ne serait-ce que sur les contrebandiers. Un contrebandier au Québec ou au Canada, là, un braconnier, il va s'en taper ses doigts, oui, il y a des bonnes amendes, etc. Tu ne veux pas être braconnier aux États-Unis. Là. Si on y va avec la loi US au niveau braconnier, là, on vient de régler un gros problème parce que là, on va beaucoup plus loin. En matière de dissuasion du braconnage, c'est beaucoup plus large. La gestion aussi du libre-échange ou des grands accords dans le passé entre les Premières Nations et les pieds plats, mais évidemment, la façon de l'aborder est totalement différente aux États-Unis. N'en plaise à d'aucuns, là. C'est sûr qu'il y a des gros, gros, gros changements là-dedans. Mais le principal changement, est au niveau de l'agressivité de la conservation des milieux fauniques que les Américains peuvent appliquer. Évidemment, le gros dossier dans le 51e État, dans la tête de n'importe quel propriétaire légitime d'armes à feu, c'est le deuxième amendement. Le deuxième amendement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un amendement, donc un amendement qui fait partie de la Constitution des États-Unis. Ça dit, et je vous le traduis en français, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Ça, c'est le deuxième amendement. Et il y a évidemment beaucoup de Canadiens propriétaires légitimes d'armes à feu qui regardent cet amendement-là avec un grand sourire. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a des nuances. Il y a d'autres choses aussi. On n'est quand même pas si mal au Canada, malgré que là, écoute, le bateau est tellement scrap que le capitaine, quand il a vu le bateau de pirate de Trump l'autre bord s'en venir, il a sauté par-dessus bord. Là, et moi, je m'en vais. Je dis non, oublie ça, là, c'est sûr. Premier boulet, on coule, là. Il saute. Ouais, puis au niveau criminalité, si tu regardes l'augmentation juste d'un crime par arme à feu, c'est 116% d'augmentation, là encore dernièrement, avec des investissements de millions et de millions et de millions par année financière complètement dans le vide, dans la sécurité face aux armes à feu. Je ne sais pas à quel point, avec les nouveaux chiffres, les nouvelles augmentations, le désastre économique complet, le désastre démocratique complet du Canada, je ne sais pas. Oui, il y a énormément de pour et de contre à faire. Moi, je ne me prononcerai pas final tant que je n'aurai pas eu une bonne conversation d'une journée ou deux avec des experts en économie et politique de ce côté-là. Mais je suis capable de voir que tu as quand même l'autre bord un homme d'affaires qui est, oui, frivole, puis qui est un peu tombé sur la tête. Il met des mesures en place qui sont excessivement draconiennes, mais au bout de la ligne, je voudrais-tu avoir un boss de même qui me défend comme employé, moi?
Oui.
Je perds pas ma place, là.
Non, c'est ça.
Il va me défendre jusqu'au bout. Il va empêcher l'extérieur de venir atteindre l'intérieur, et ça, c'est dans toutes les ressources. Il l'a compris, lui. Si on débarque là, de la folerie de Donald Trump et de l'arrogance de Donald Trump, là, la protection de son économie, mais la protection de ses ressources initiales, air, terre, mer. Et là, je ne parle pas au niveau militaire, je parle au niveau de l'intégrité de ces ressources-là, dans les moyens qu'il va mettre en place pour conserver, faire de la conservation sur le plan pan-américain, le plan USA. Là, c'est assez agressif, mais ça va faire que lui, l'autre bord de ça, il va sortir avec une signature qui est assez... Tu sais, depuis Roosevelt aux États-Unis, là, qui a été appelé le président le plus vert de l'histoire de l'humanité, là, depuis Roosevelt, les États-Unis ont pris un virage avec, entre autres, les parcs nationaux, Yellowstone, et etc., avec des critères de protection qui sont excessivement agressifs, des rangers armés. Là, tu ne vas pas là pour faire du braconnage. Là. Ils ont un niveau de protection de leurs ressources premières que sont l'air, la terre et la mer, qui sont à des niveaux incommensurables avec les nôtres, mais les nôtres, en fait, sont sont dans le sous-sol, dans le cave chez M. Lebrun. Le monde est en train de complètement renverser la vapeur. Bon, on a renversé la vapeur dans la dernière décennie où est-ce que air, terre, mer, la conservation de ces trois éléments-là, on s'en contrefout. Si on a à mettre une mine de lithium ou de quoi que ce soit, bien, on va y aller. On va, première des choses, investir l'argent des contribuables à coup de chaudière là-dedans. Puis que ce soit un milieu humide protégé dans lequel les dernières espèces ou les derniers individus de tel oiseau ou de tel caribou existent. Écoutez, on a vu là une petite chicane cette année. Là. On va perdre de caribou forestier complètement. Ça fait 8 ans qu'on demande au Québec de le protéger. Le gouvernement, le fédéral, fait comme, là, si vous n'êtes pas gentil, on va mettre un décret en place. C'est quoi cette histoire-là? Non, tu es en train de perdre de caribou, t'arrêtes les opérations. C'est ça, la méthode américaine, c'est celle-là. Aller jusque où? Le complexe de Dieu, de l'être humain, peut choisir d'anéantir une espèce pour continuer des travaux économiques. Au moment où est-ce que les mêmes investissements qui sont mis dans les plans de redressement auraient pu être mis pour venir soutenir ces compagnies-là puis ces travailleurs-là.
Martin, t'es en feu? Tu commences l'année en feu?
Hey, j'ai mon rendez-vous avec mon gain.
Ben oui, t'étais bon en plus. Hey, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la chasse et la pêche, qui aimeraient bien intégrer votre secte à toi et Kate.
faut donner à comment est-ce qu'on dit à la communion à la fin. Les médias sociaux, on est super facile à trouver, Facebook, Instagram, X, Away Go, puis évidemment acpnation.com, c'est la principale place où aller nous trouver. On est souvent en live le soir ces temps-ci, justement, pour parler des différents dossiers de Trudeau, Trump, et etc. Fait que sur nos médias sociaux, mais acpnation.com, je dirais qu'à partir de là, vous avez accès à pas mal de tout.
Martin, c'est toujours un plaisir.
Hey, bonne année!
Merci, bonne année. Bye-bye. Martin Bourget, un gars que j'aime bien, qui est président du groupe Aventure Chasse Pêche. Je n'ai même pas dit un mot. Il y en a-tu du gaz?
Ah non, mais moi, je le trouve tellement intéressant.
C'est un passionné.
Il connaît ses dossiers.
T'es allé pêcher avec.
Oui.
Tu nous as fait honte un peu. T'as laissé une douzaine de poissons au fond du lac.
Une petite anecdote, mais sans plus, là, personne n'a été blessé. C'est juste que les truites attendent encore, effectivement.
Ils attendent encore? Pascal, vas-tu venir nous rechercher?
Pourquoi on est accroché?
Pourquoi on se regarde tout
le
temps?
Surtout, imagine qu'il y en a une qui a eu l'autre à qui est accroché.
On n'est pas capable de se sentir. Et là, ils sont accrochés l'une et l'autre grâce à toi.
Moi, j'adore une auditrice qui nous écrit « Je ne chasse pas, je ne pêche pas », puis c'est une de mes chroniques préférées.
Il est tellement motivé. On l'adore. 13h43. Boulevard.